tandis que, dans la politique intérieure française, inexorablement, se poursuivait la domination complète, vous savez, totale, des affairistes. Ces mêmes puissances d'argent avaient fini par découvrir l'intérêt de ce que leur avait proposé Jules Ferry, c'est-à-dire la ruée française et mondiale, la ruée occidentale, sur les peuples sans défense afin de confisquer leurs biens. C'est en 90 que s'était constitué un comité de l'Afrique française. Et il faut que je vous dise, le texte même de leur rédaction, ils avaient dit, il va sans dire que le but du comité est constitué dans une pensée purement patriotique. Un but absolument désintéressé, étranger à toute préoccupation d'affaires et n'ayant d'autre souci que de servir la cause de l'influence française. Alors c'est très intéressant de voir quels étaient les membres de ce comité de l'Afrique française qui n'avaient aucune préoccupation d'affaires. C'était M. Jules Siegfried, l'industriel, enfin, le négociant du Havre. C'était M. Hénard, qui était banquier à Lyon. C'était M. Louan, qui était manufacturier à Gien. C'était M. Crouan et Permezel, respectivement président de la Chambre de commerce de Nantes et de Lyon. Et c'était M. Charleroux, député centre-gauche, naturellement, futur président de la Transatlantique. Ça, c'est en 90. Alors voilà que va se constituer aussi maintenant à la Chambre ce que l'on appelle le groupe colonial. Les noms sont intéressants. Les noms principaux, c'est Léoncet, l'éternel Léoncet, vous savez, Delcassé, ministre des Affaires étrangères, Deschanel, et un nouveau venu, dont vous entendrez souvent prononcer le nom par moi, qui s'appelle Eugène Étienne. C'est drôle qu'on ait oublié Eugène Étienne. C'est un homme extrêmement important pour le colonialisme français, au point qu'au banquet de l'Union coloniale de 1905, on saluera le fondateur et le chef aimé du parti, M. Eugène Étienne. La même année, on va constituer un ministère des colonies. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de ministère des colonies en France. C'est en 94, ça que ça se passe. Le ministère des colonies, jusqu'alors, c'était un sous-secrétariat d'État qui était rattaché au ministère de la Marine. Et maintenant, on va faire un propre ministère des colonies. Cependant, le ministère des colonies ne régnera que sur les colonies proprement dites et les autres colonies qui s'appellent protectorat, vous savez, le protectorat jusqu'alors de Madagascar et le protectorat de la Tunisie sera rattaché aux affaires étrangères. À cause d'hypocrisie, ce sont des nations étrangères. Droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, alors simplement, ce sont des nations protégées. Mais il est bien intéressant de voir les termes du rapport de fondation de ce ministère des colonies. Il faut assurer à la France la compensation des sacrifices qu'elle a consentis pour la conquête de son empire. Jules Guesde, dès 1885, avait dit, ben voyons, qu'est-ce que c'est que le colonialisme? Ça se fait comment? Ça se fait au moyen du sang et de l'argent de la nation, de la collectivité. On commence par envoyer des soldats, c'est-à-dire les enfants du peuple. Ensuite, on envoie un peu d'argent pour les premiers travaux, enfin pour des routes, pour l'aménagement du port, c'est encore l'argent du peuple. Et puis après, ce sont des compagnies privées qui raflent tous les bénéfices. Alors maintenant, il s'agissait d'assurer à la France la compensation des sacrifices qu'elle a consentis. Quelle compensation? Eh bien évidemment, dans les colonies, on va mettre des impositions, enfin des taxes sur les noirs ou sur les jaunes. Ça rapportera un peu. Mais en réalité, comme je vous le dirai tout à l'heure par des citations exemplaires, les colonies coûteront toujours très cher à la métropole et ne rapporteront pratiquement rien à la métropole. Elles rapporteront à des groupes d'intérêts privés. Il faut savoir aussi que dans cette union coloniale, on est extrêmement indigné par ce comportement de l'extrême gauche que je viens de vous signaler. Clémenceau, lui aussi, Jules Guesde et Jaurès, naturellement, ne cessaient de dire que c'était un scandale. Alors, au banquet de 94, le président, qui s'appelait Mercet, je crois, va dire, on nous appelle des mercantis. Quelques mercantis, aurait dit M. Clémenceau. Or, il ne s'agit pas de mercantis. Il s'agit, dit-il, d'un groupe compact, puissant et chaque jour plus nombreux d'hommes qui ont leur tradition de droiture et qui contribuent de manière exemplaire à la grandeur de notre pays. L'année suivante, il y a toujours le Mercet qui s'indigne. On croirait à entendre certains que dans ce pays, il n'y a d'honnêtes gens que les calomniateurs à gages, et de purs que les représentants d'un parti dont le seul orgueil est d'éveiller la haine, de susciter l'envie et d'offrir bénévolement aux soi-disant travailleurs, une merveille ça, hein, d'offrir bénévolement aux soi-disant travailleurs les richesses qu'ont acquises avec peine ceux qui, eux, ont effectivement travaillé. Mais vous savez, ils recevaient, ces messieurs, l'appui le plus considérable des ministres successifs des colonies. Il y avait Eugène Étienne, qui avait été sous-secrétaire d'État aux colonies avant la constitution du ministère, et puis il y aura ensuite Delcassé, et puis Deschanel. Alors il y aura un salut à Delcassé, ministre des colonies. Ce Delcassé, que nous avons vu lui-même offrir des concessions territoriales à quelques-unes de nos maisons les plus anciennes et les plus recommandables, nous l'avons entendu promettre de nous consulter sur les tarifs de douane, tout cela est profondément satisfaisant, disant les membres de l'Union coloniale. Ce mot de profondément satisfaisant me rappelle quelque chose que j'avais trouvé l'année dernière à propos de l'indemnité de guerre que Thiers avait versée à l'Allemagne. Vous savez que cette indemnité avait été versée grâce à des emprunts. Un emprunt dont la Banque de France avait été tellement bénéficiaire qu'elle avait porté, je vous l'ai dit, son dividende de 80 à 300. Il y a une lettre à Thiers que j'avais publiée l'année dernière où le comité de régence de la Banque de France disait « Les mesures prises par le gouvernement sont profondément satisfaisantes ». C'est exactement le même mot. L'Union coloniale dit « Le ministère à notre égard est profondément satisfaisant ». Mais vous allez voir mieux, il y a Chautan qui aura un certain rôle à la fin de la Troisième République. Il y a Chautan qui va dire, et il est ministre des colonies. Le ministre des colonies est tenu de se considérer avant tout, vous attendez bien, de se considérer avant tout comme un second ministre du commerce. Le commerçant, c'est pour lui que l'administration coloniale doit être faite. Ah ben c'est clair. Alors voyez, qu'est-ce qu'on faisait positivement? Ben on avait commencé par reprendre la question de Madagascar, parce que vous vous rappelez peut-être qu'elle avait été mal réglée. En 1883-84, on s'était jeté sur Madagascar, mais je vous avais dit, rappelez-vous, qu'on n'avait pas pu occuper réellement l'île, parce qu'en 1885, les soucis de Jules Ferré avaient été tournés du côté de l'Indochine, où ça tournait mal, avait abouti au demi-désastre de Lang Son. Il fallait reprendre les choses. Une île pareille, avec les gisements qu'elle pouvait posséder, puis avec toute l'exploitation qu'on pouvait tirer des indigènes, c'est quelque chose à ne pas négliger. Alors on va envoyer ce qu'il faudra, on a envoyé un premier corps expéditionnaire en septembre 1994, c'est M. Eugène Étienne, qui a demandé des crédits pour, écoutez bien, pour achever la pacification. Ce mot de pacification servira beaucoup dans les affaires coloniales. Seulement, ça avait très mal tourné. Les soldats avaient été mal équipés, on n'avait pas fait des piqûres nécessaires, quoi, ils avaient eu de la malaria. Le corps expéditionnaire était tombé dans une véritable débandade à cause de l'énormité du nombre des malades. Alors on va remettre ça, on va bombarder Tananarive au mois de septembre 1995, et le 18 janvier 1996, la France va annoncer qu'elle prend possession. Elle annonce au monde, je prends possession de l'île de Madagascar. Immédiatement, soulèvement. Alors je vous assure qu'on fait ce qu'il faut pour que le soulèvement soit réduit. La reine Rana Valo va être déportée en Algérie, et le 6 août 1996, l'annexion de Madagascar est prononcée. Bon, voilà une bonne chose de faite. Maintenant, regardons du côté de l'Afrique du Nord. En Afrique du Nord, Eugène Étienne expliquait qu'il fallait que la France s'occupât toute l'Afrique du Nord. Et il expliquait volontiers qu'il y avait un grand axe à établir. Nous étions déjà à Alger, alors il fallait que les Français descendent jusque sur les côtes du golfe de Guinée, voilà pour nord-sud, et maintenant ouest-est. On était à Dakar depuis longtemps, Sénégal. Alors il fallait traverser horizontalement, si je puis dire, toute l'Afrique pour aboutir peut-être, qui sait, jusqu'à Djibouti. Pour aboutir à Djibouti, hein, il fallait traverser les positions anglaises et vous allez voir que ça ne va pas tourner très rond. Alors on envoie les troupes nécessaires, il y a un certain commandant Joffre, oui, commandant Joffre, qui va devenir le général Sine Joffre, qui lui va s'emparer de Tombouctou. Tombouctou est au sommet de la boucle du Niger. Vous avez un général, le général Dodds, qui va poursuivre un malheureux qui s'appelait Béhanzin, qui était le roi du Dahomey. On va conquérir le Dahomey. Et je sais très bien, et je ne cacherai pas, qu'il y avait là d'horribles exploitations. Il y avait des haines tribales, vous savez, il y avait une tribu qui exploitait l'autre tribu. Eh bien, on va régler tout ça par un asservissement, tout simplement, général. Et puis, il faut descendre maintenant du côté de l'Afrique équatoriale. Ce même monsieur Bourgeois dont vous avez parlé, Émile Bourgeois, qui a écrit ce manuel historique de politique étrangère qui est tellement dans la bonne ligne, dit « C'était un devoir pour la France que de porter la civilisation à ces contrées lointaines. » Alors on va faire de la pénétration d'abord à l'intérieur de ce qu'on appellera plus tard le Soudan français, ça c'est pas encore le Congo, puis on va descendre vers le Congo. À l'intérieur du Soudan français, il y aura un certain nombre d'expéditions si affreuses que le bruit en éclatera jusqu'en France même. Il y aura le scandale de l'expédition du lieutenant Voulet et du lieutenant Chanoine. Lieutenant Chanoine, très apparenté, son père était général. Ils se sont conduits de telle façon, saisis de je ne sais quel sadisme ou hystérie, enfin, ils coupaient des mains, ils tuaient des femmes, ils coupaient les seins. C'était tellement effrayant qu'il y a eu un mouvement de protestation en France. Eh bien, M. Émile Bourgeois, qui parle du devoir de la France de porter la civilisation à ses contrées, énumère le nom de ces officiers couverts de gloire qui ont bien servi la France, et il signale les valeureux efforts de XXX, plus, tranquillement, ils le disent, valeureux efforts du lieutenant Voulet et du lieutenant Chanoine. Alors vers le sud, c'est le Congo, c'est le bassin du Congo. Et là, on va se heurter à une difficulté parce qu'il y a un monsieur, un affairiste de grande classe qui s'appelle le roi Léopold II de Belgique, qui a ses idées depuis longtemps sur le centre de l'Afrique et il voudrait bien mettre la main sur ces richesses du bassin du Congo. C'était, je viens de vous le dire, un affairiste de grande classe, mais aussi c'était quelqu'un qui savait user du vocabulaire nécessaire. Alors, il avait d'abord, dans un premier texte, il n'était pas encore monté sur le trône, il n'était pas le roi, c'était en 64, c'est vieux, hein. Et il avait indiqué l'intérêt des opérations coloniales en disant « C'est un moyen de placer nos capitaux de façon même plus avantageuse que dans les chemins de fer. » Mais maintenant qu'il est monté sur le trône, il va employer le vocabulaire requis, c'est-à-dire un vocabulaire humanitaire. En 1876, il a réuni, je cite, « quelques personnalités qui, par leur voyage, leurs études, leur goût philanthropique et leur esprit de charité, se sont le plus identifiés avec... » C'est une drôle de français. Une drôle de français, mais c'est comme ça. « Se sont le plus identifiés avec les tentatives d'introduire la civilisation en Afrique. » Et un des projets qu'il va mettre sur pied, disait Léopold, c'est ceci, un de ces projets qui mérite au premier chef d'occuper les amis de l'humanité, une véritable croisade digne de ce siècle de progrès. Il faut, écrit-il, planter définitivement l'étendard de la civilisation sur le sol de l'Afrique centrale. Alors vous imaginez tous les affairistes qu'il a derrière lui. Il va arriver à organiser en 1885 ce qu'il appelle comiquement l'État indépendant du Congo. L'État indépendant du Congo. Seulement c'est sa propriété personnelle. Un État indépendant avec son drapeau à lui, enfin pas de représentation diplomatique, mais un drapeau. Drapeau bleu avec au centre une étoile d'or, je crois. Et puis le roi va se réserver, alors personnellement, à l'intérieur de l'État indépendant du Congo, ce qu'il appellera le domaine de la couronne. Ça représente 6 fois l'étendue de sa Belgique natale. 6 fois l'étendue. C'est estimé environ à 20 millions de dollars. Et finalement, le roi échangera son domaine, enfin vendra son domaine de la couronne à la Belgique. Le roi de Belgique vend à la Belgique, vend au Parlement belge son État indépendant du Congo et son domaine de la couronne. Il a marchandé, mais il avait demandé 150 millions de francs, enfin l'équivalent de 150 millions de francs français. Il va finir par transiger à 100 millions, si bien qu'au mois de mars, oui, le 25 mars 1908, ça ne sera plus l'État indépendant du Congo, ça sera le Congo belge. Il avait utilisé le Léopold II, un intrigant, un aventurier, un homme d'argent qui s'appelait Stanley, et il l'avait chargé de faire des prospections, d'avancer, et de planter le drapeau de l'État indépendant le plus loin possible. Mais Stanley s'était heurté à quelqu'un que la France avait envoyé, qui est Savorian de Brazza. Et bien dans ces sombres, dans ces sinistres, dans ces lugubres histoires coloniales, il faut dire que Savorian de Brazza a une place particulière, exceptionnelle et noble. Savorian de Brazza, c'est un homme qui a pris au sérieux ces questions d'humanité, et qui se dit, il y a là-bas des gens qui sont dévorés de tas de maladies, des gens qui sont évidemment soumis à l'esclavage, on pourrait y faire du bien. Vous vous rendez compte, si Savorian de Brazza était estimé de l'Union coloniale, enfin c'était un gêneur, c'était un pipe épouvantable. Savorian de Brazza était tout de même arrivé à constituer un État du Congo, une colonie française du Congo, on l'avait le plus rapidement possible écarté, c'était naturellement les affairistes qui s'étaient jetés dessus, et on va voir au banquet 93 de l'Union coloniale, le secrétaire général adressé de très chaleureux remerciements au ministre des colonies qui s'appelait Delcassé, qui a résolu sans bruit la question des concessions. C'est ainsi que le 30 octobre 1993, une seule compagnie, la compagnie du Haut-Ogooué, a reçu pour 30 ans, la libre disposition et jouissance, pleine et entière, de 11 millions d'hectares de forêt. La compagnie recevait du reste le droit d'assurer par ses propres moyens la sécurité de ses établissements, c'est-à-dire qu'on lui permettait d'avoir sa petite armée à elle. Il y avait d'abord ceux qu'on appelait les gardes régionaux, qui eux étaient payés par le gouvernement français, c'était des fonctionnaires, quoi. Ils portaient une chéchia rouge qui intimidait les Noirs, mais à côté de ces gardes régionaux, armés par le gouvernement français, il y avait des travailleurs armés, c'était le mot, des travailleurs armés qui étaient payés par la compagnie et qui obtenaient le travail forcé des indigènes par les voies que vous pouvez supposer. Brazza obtient en 1905 d'être chargé d'une nouvelle mission au Congo. Par bonheur, il tombe malade au Congo, il revenait avec un rapport que nous connaissions qui était extraordinairement sévère contre les concessions, et il tombe malade et il meurt. Néanmoins, certains groupes de gens à la Chambre, des gens de gauche et d'extrême gauche, disent « mais il faudrait tout de même revoir cette question des concessions. Enfin, c'est inadmissible que des concessions privées obtiennent des territoires aussi énormes que ces 11 millions d'hectares de forêt à un seul groupe financier. » Alors à ce moment-là, menace des compagnies concessionnaires. Dans leur journal qui s'appelle « La Dépêche coloniale », à la date du 13 janvier 1906, il y a un avertissement donné au Parlement. « Cela pourrait, messieurs, vous coûter une centaine de millions de retoucher à la concession. » Comment coûter une centaine de millions? Naturellement, ces concessions se sont fait donner des garanties. L'État garantit leurs dividendes. Par conséquent, si jamais on veut toucher au régime des concessions, ils vont se retourner contre l'État et dire « Mais vous avez signé ceci. Alors si vous voulez nous retirer notre concession, vous serez obligé de nous payer des indemnités. Et ça coûtera au Trésor français à peu près, disent-ils, 100 millions. » Du côté de l'Asie maintenant, c'est l'Indochine qu'on va essayer d'exploiter au mieux. Et le nouveau gouverneur qu'on a envoyé, Doumer, qui deviendra lui aussi président de la République, enfin, ça servait beaucoup de passer par le ministère des colonies, Doumer va établir 3 taxes particulières. Il va décider qu'il y a des régies qui sont maintenant des régies d'État, c'est-à-dire c'est la France, représentée par son résident général, qui aura seule le droit de vendre l'alcool, le sel et l'opium. C'est donc le gouvernement français qui va être l'unique fournisseur, l'unique marchand d'opium. On n'aurait pas le droit de vendre d'opium, sauf en passant par le gouvernement français et en payant les taxes nécessaires. D'autre part, les colons, qui sont très peu nombreux, vous savez, ils sont environ à ce moment-là 20 000 Français, 25 000 si vous voulez, et il y a 20 millions d'indigènes, estiment qu'on peut se faire obéir que par la crainte et par la terreur. Et ils ont l'aplomb, de demander que l'on établisse en Indochine ce qui fonctionne si bien en Amérique et qu'on appelle la loi de Lynch. C'est-à-dire que s'il y a un indigène qui se conduit mal, pas besoin de jugement, les colons se précipiteront sur lui et le tueront. Ils demandent au moins, puisque le gouvernement ne veut pas entendre parler de loi de Lynch en Indochine, ils demandent au moins que toutes les fois qu'il y aura une exaction commise par un indigène, il soit jugé par un tribunal exclusivement blanc. Voilà qu'un gouverneur qui s'appelait M. Beau, qui avait succédé à Doumer, va essayer une autre politique en disant « Non, c'est tout de même très inhumain ce que nous faisons. Notre seule chance, c'est d'essayer de nous faire aimer. » Alors, vous n'imaginez pas les colères contre lui. Le journal Le Temps va foncer contre le gouverneur Beau en disant « Ce serait folie que de contribuer à nous préparer des ennemis à l'intérieur comme on le fait présentement. » Il ne faut pas oublier que M. Jules Ferry avait dit « Les lois françaises ne se transplantent pas étourdiment. » Parmi les lois françaises, il y avait tout de même la Déclaration des droits de l'homme, c'est-à-dire que tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Ça, c'est bon pour l'Europe, mais c'est surtout pas bon pour les colonies. Alors on va assister à un régime de force avec des soulèvements intermittents, avec de grands frémissements intérieurs dans la population, jusqu'en 1914 et même au-delà, chaque fois qu'ils sont réduits par le sang. Je vous avais déjà dit que les gens qui travaillaient en Indochine regardaient avec sympathie du côté de la Chine, parce que la Chine, c'était un territoire nouveau qui s'ouvrait et qui était extrêmement mal défendu. Alors de même que s'était constitué un comité de l'Afrique française, se constituera en 1900 un comité de l'Asie française, sous la présidence de qui, ben naturellement du même, toujours Eugène Étienne. Et ce comité réclame, à l'égard de la Chine, une diplomatie éclairée, afin de procéder à l'émancipation intellectuelle et économique de cette partie du monde aux richesses inouïes, car il y a là, disait le texte du comité, un bloc d'immenses richesses latentes, sur lesquels on peut mettre la main, il ne disait pas ça, un bloc d'immenses richesses latentes. Alors vous savez qu'en 1900, il va se produire une expédition internationale en Chine. Il y avait eu un soulèvement, c'était les Boxers. Boxers, paraît-il, ça signifie le poing levé pour la justice. C'était des indigènes qui se révoltaient contre les exactions, ils voyaient bien ce qui se passait, de toutes parts, l'Occident tombait sur eux, alors ils tentent une révolte. C'est une mission militaire internationale sous le commandement d'un officier allemand, à laquelle on va voir participer des troupes françaises, des troupes japonaises, des troupes russes, des troupes anglaises, qui vont se jeter sur Pékin. Et là, je voudrais vous apporter une citation que j'estime pour ma part exemplaire. Le Figaro, qui ne reculait devant aucun sacrifice, avait envoyé Pierre Loti comme correspondant de guerre à Pékin à la suite de l'expédition internationale. Et dans le Figaro des 18 et 20 octobre 1900, oui, Pierre Loti avait écrit ceci. « J'ai eu la chance, d'entrer à Pékin après une razzia de nos zouaves. Ça et là, des mains coupées, des têtes coupées, des paquets de cheveux. Quelque chose sort d'un seau. Je m'approche. Ce sont les deux cuisses décharnées, la moitié inférieure d'une vieille femme, jetée là, les jambes en l'air. » Vous imaginez bien que ces souvenirs-là resteront frappants, enfin, dans l'esprit des Chinois. La France va demander des avantages, l'Allemagne aussi, car je vais vous montrer maintenant qu'il ne s'agit certainement pas uniquement de la ruée française, mais que c'est une ruée générale. Mais il faut que je vous dise auparavant que le grand thème développé par les colonialistes est celui des richesses. Étienne avait dit, au propos de Madagascar, il faut emmagasiner là, pour la France, une force de richesse incalculable. Ben maintenant, voici les deux citations que je vous avais annoncées tout à l'heure sur les résultats du colonialisme. Et je ne veux certes pas les emprunter à des esprits subversifs. Ma première citation vient de M. Emmanuel Beau de Loménie, qui est un royaliste, qui est un légitimiste, et qui a écrit des livres fort importants sur les dynasties bourgeoises. Et voici ce qu'écrivait M. Beau de Loménie en 1954. « Notre politique coloniale aura coûté très cher au budget public pour le profit presque exclusif d'une étroite minorité de grandes affaires de l'industrie et de la banque. Et voici maintenant un autre texte qui est 1960, dû à un monsieur Henri Braunschweig qui ne passe pas pour un marxiste. Il apparut bientôt que des particuliers pouvaient s'enrichir aux colonies, même si elles n'étaient nullement rentables pour l'État. La politique coloniale fut incontestablement, pour un petit nombre d'individus, une affaire énorme, et pour la masse, un mythe. Quel mythe? Mais bien sûr quoi, le mythe national, le mythe de la grandeur française. Des poitrines pouvaient se gonfler en pensant que le drapeau français flottait aux quatre coins du monde, et je me rappelle parfaitement que quand j'étais avant 1914 petit élève au lycée de Mâcon, nous portions tous l'insigne de la Ligue maritime et coloniale. Bon, c'est bien, hein, qu'il n'y avait pas que le drapeau français qui flottait dans les quatre coins du monde. Nous assistons maintenant à cette ruée de l'Occident, et même d'autres nations que les nations occidentales, sur les peuples pauvres. Il y avait quoi? Ben, il y avait l'Allemagne qui avait fini par découvrir tout de même, à partir de 84-85, l'intérêt des opérations coloniales. Alors l'Allemagne avait mis la main sur divers territoires africains, le Togo d'une part, le Cameroun d'autre part, et puis dans la partie méridionale de l'Afrique, il y avait l'Afrique occidentale allemande et l'Afrique orientale allemande avec Dar es Salaam. Quant à la Chine, les Allemands s'étaient implantés, eux, à Kiaoutchéou. Il y avait les Russes. Les Russes poussaient dans la direction du Turkestan, et le Turkestan finissait par toucher à l'Afghanistan, et ça, c'était plutôt du côté des Anglais. Mais les Russes ne se contentaient pas de pousser dans ces directions-là, mais ils allaient vers l'extrême-orient, c'est-à-dire qu'ils convoitaient la Mandchourie. Il y avait l'Italie. L'Italie aussi désirait quelque chose. Il y avait la Cyrénaïque et la Tripolitaine. Vous savez où ça se trouve, hein? Entre la Tunisie et l'Égypte, il y avait encore des nations, qui en fait des nations, des peuplades qui n'étaient pas soumises. Là, les Italiens se disaient, ça, c'est un... Et puis, il y avait naturellement l'énorme Angleterre. C'était au somme l'Angleterre qui avait ouvert la voie à ce véritable colonialisme d'affaires. Et quand on parle tout le temps du pan-germanisme, qui est certes une réalité, il ne faut pas oublier non plus l'impérialisme britannique. Je vous apportais là une citation, la doctrine, car on disait bien le mot, la doctrine... Chamberlain, comme nous disons en français. « Je crois, avait dit Chamberlain, je crois en cette race anglo-saxonne la plus grande des races gouvernantes que le monde ait jamais connue. » Mais vous pensez bien que dans ces opérations-là, ça n'allait pas toujours tout seul et que le canon tenait sur toutes les coins du monde. Il y avait des guerres, de véritables guerres. Il y avait eu, par exemple, la petite guerre qui avait commencé l'Italie, qui voulait l'Éthiopie, contre les troupes du Négus qui s'appelait Ménélique, et ça avait très mal tourné. En 1896, les Italiens s'étaient fait battre à plate couture à Adoua. Il y avait une guerre que les États-Unis avaient déclenchée contre l'Espagne, parce que les États-Unis s'étaient mis à s'intéresser beaucoup à ce qui se passait en dehors de chez eux. On nous parle toujours de la célèbre doctrine Monroe, vous savez, la doctrine Monroe, comme on dit en français. Mais cette doctrine Monroe, il faut savoir ce qu'elle était. On nous dit que c'était l'isolationnisme américain qui disait « Nous, nous occupons de notre continent, on ne s'occupe pas de ce qui se passe ailleurs. » Attention, le texte même qui est 1823 de la doctrine de Moreau spécifiait très nettement que l'Occident ne doit pas considérer les Amériques comme un terrain de colonisation. Les Amériques. Ce qui signifiait que les Américains du Nord, quoi, les Yankees, considéraient que l'Amérique centrale et l'Amérique méridionale, c'était leur terrain de chasse à eux. Attention, Européens, c'est le sens de la doctrine de Moreau. Attention, Européens, ça, c'est une chasse gardée. Nous ferons notre colonialisme comme nous l'entendrons. Mais ils débordaient de leur Amérique. Ils débordaient, puis s'étaient emparés en 1898, je crois, des îles Hawaï d'un côté, dans le Pacifique, et de l'autre côté, ils s'étaient jetés, et des Philippines, que j'oubliais, et de l'autre côté, dans la mer des Antilles, ils s'étaient jetés sur Porto Rico et Cuba. Or, les Philippines, Porto Rico et Cuba appartenaient à l'Espagne, et ça avait été une guerre entre les États-Unis et l'Espagne. Vous avez maintenant les frictions qui vont se produire entre l'Angleterre et la Russie, parce que je viens de vous dire que les Russes commencent à regarder du côté de l'Afghanistan, et que l'Afghanistan, les Anglais considèrent que c'est leur propriété, ça va aboutir à une extrême tension. Quant aux Russes et aux Japonais, les Japonais aussi, qui convoitent des territoires, qui convoitent la Corée, qui convoitent l'île de Sakhaline, qui est une île russe et qui est au nord, les Japonais ne veulent pas voir arriver les Russes en Mandchourie. Et ça va aboutir à une grande guerre, celle-là, une guerre sérieuse, qui est la guerre russo-japonaise de 1904-1905. Et l'Angleterre aura sa guerre des bourgs. Qu'est-ce que c'est grosso modo cette histoire de la guerre des bourgs? Ben, vous savez, il y avait une vieille colonie hollandaise qui était au Cap. Les Anglais avaient mis la main sur le Cap. Les bourgs s'étaient retirés à l'intérieur. Pas encore trop d'histoire. Avant que l'on ne découvre qu'il y avait d'une part des mines de diamants dans le territoire des bourgs et des mines d'or. Alors à ce moment-là, un grand homme du colonialisme anglais qui s'appelle Cecil Rhodes avait décidé qu'il fallait mettre la main sur ces possessions-là. D'où une guerre, une longue guerre avec les bourgs, où les Anglais seront obligés de mettre paquet, si j'ose dire encore, 300 000 hommes finiront par envoyer 300 000 hommes là-bas. Et ils en perdront 60 000. Et les frictions internationales s'accroissent, et même maintenant, entre la France et l'Angleterre. Il y a un instant, je disais tout à l'heure que les Français commençaient à regarder jusqu'à Djibouti. Ils avaient mis la main sur Djibouti en 1881. Et pour joindre Dakar d'un côté à Djibouti de l'autre, il fallait franchir le Soudan égyptien. Or, les Anglais, après avoir dit « nous ne sommes que provisoirement et que passagèrement en Égypte », avaient parfaitement l'intention de descendre vers le sud, et leur grande idée, c'était une ligne militaire, enfin une ligne économique et militaire, qui joindrait le Cap au Caire, la fameuse ligne du Cap au Caire. Ils avaient l'idée de posséder tout ce centre vertical, si j'ose dire, nord-sud de l'Afrique. Alors, comme la France avait fait semblant, avec Jules Ferry, de se désintéresser de l'Égypte, et qu'avec Delcassé, elle s'intéressait de nouveau à l'Égypte, on avait envoyé une expédition qui devait aller, si possible, jusqu'au bord de la mer Rouge, en partant du Soudan, avec le colonel Marchand. Le colonel Marchand arrive sur le Haut Nil, dans cet endroit qu'on appelle Fashoda. Et à Fashoda, il va se trouver en face de Kitchener, l'anglais, qui, après avoir écrasé le Mahdi à Omdurman, s'avance vers le sud et dit à ce colonel Marchand, « Vous êtes là, vous allez partir. » Eh bien, la France va céder. Delcassé lui-même, Delcassé dit, « Non, on ne peut pas risquer tout de même une guerre avec l'Angleterre, quoique vous verrez qu'à un certain moment, ce Delcassé avait été fort ému, et retirera les troupes, humiliation nationale incroyable, d'un beau Français qui est amené et qui remue par terre sous le vent, les troupes françaises se retirent de Fashoda. » En 98, il se produit un événement dont presque personne ne parle quand on raconte les histoires internationales. Et moi, j'y attache beaucoup d'importance. En 98, il y a un nouveau tsar depuis 4 ans en Russie, il s'appelle Nicolas II. C'est lui qui va être, pour une part, responsable de la guerre que nous étudions maintenant, la guerre de 1914, je dis bien pour une part, mais c'était un homme qui ne désirait certainement pas la guerre. Il était timide, il était faible, si vous voulez, il était très religieux. Et voici qu'en 1998, ce tsar prend l'initiative d'une demande générale adressée à toutes les puissances de désarmement. Oh, il ne dit pas on va abandonner tout de suite nos armements, mais au moins stopper les armements. Décider que cette fameuse escalade qui commence de toutes parts doit s'arrêter. Parce que, dit-il, ça aboutira fatalement à un égorgement européen, à un carnage. Alors il va proposer une conférence du désarmement à La Haye. Vous n'imaginez pas le mépris qui va accueillir cette proposition dans toutes les chancelleries. Un mépris qui va être naturellement excité par ceux qui sont les fournisseurs d'armes et qui se disent comment, mais on est en train de gagner des fortunes en armant les nations respectives, qu'est-ce qui va arriver? Guillaume II a écouté la proposition de Niki, comme il l'appelait cet apparent Nicolas II. Ça l'aurait intéressé, mais il dit, mais avec quoi M. Krupp payera-t-il ses ouvriers? Krupp, vous savez, c'est l'industrie militaire, l'industrie armement allemande. Il ne pense pas qu'il peut y avoir une reconversion de cette industrie et qu'au lieu de fabriquer des canons, on peut fabriquer autre chose. Non, il dit ça simplement. Et en France, alors toute la droite se lève, comme il y a un député qui a osé interpeller sur les variations du prix du fer. On verra un député qui s'appelle M. de Kergariou qui va dire, est-ce que nous sommes là pour nous occuper de prix économiques sur la vente de l'acier? Le comte de Münster, qui était le délégué de l'Allemagne là-bas, à la conférence de La Haye, va même, dans une lettre intéressante, dire « Toute la canaille, toute la racaille du monde entier s'est réunie à La Haye ». La racaille, bah quoi, c'est les Tolstoïens, c'est les socialistes, ce sont des gens comme Carnegie, qui n'est certes pas de la racaille mondiale puisqu'il est infiniment riche, qui essayent d'empêcher le monde d'aller à sa destruction. On fera la fameuse conférence de La Haye, ça aboutira à une chose ridicule, vous savez, un arbitrage qui ne sera jamais obligatoire. Simplement, on conseille aux nations, lorsqu'elles auront des difficultés, de recourir à l'arbitrage du tribunal de La Haye. En somme, cet espoir qui eût été, je le crois, un grand espoir pour l'humanité, il sera immédiatement piétiné, ridiculisé, aboli. Mais on va assister maintenant, du côté de la France, à un retournement singulier. L'humiliation de Fashoda a paru extrêmement pénible aux nationalistes français. Les nationalistes français, surtout à cause de l'affaire Dreyfus, et dans une intention très évidente d'utiliser le nationalisme, d'utiliser le chauvinisme à des fins de politique intérieure, les nationalistes continuent à braquer l'opinion publique sur l'Allemagne. Alors Delcassé, qui va devenir, enfin, qui est le ministre des Affaires étrangères, et qui va le rester jusqu'en 1905, Delcassé a conçu à ce moment-là un plan assez terrible. C'est le mot que je tiens à employer, un plan assez tragique, dont il s'ouvrira devant M. Abel Ferry en 1914, où il dira « Je vais maintenant, dès maintenant, tendre à l'Allemagne un piège où j'espère bien qu'elle tombera ».